nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. C'est fini, il ne reste rien d'elle, aucune trace. Les jours passent. Et à Gilbert. J'ai pas de nouvelles de Françoise. Ça fait un mois que je ne la vois pas. Gilbert lui dit, ça te fait des vacances. Julien lui répond, oui, elle ne manque pas vraiment. Elle a un caractère bizarre. Elle a dû toujours être jalouse de nous. Je crois que c'est parce qu'elle est d'un milieu modeste. Et puis, elle doit avoir honte de ce qu'elle est. Tu sais, elle m'a jamais voulu me dire vraiment où elle habitait, ni me parler de sa famille. Gilbert lui dit, elle doit croire qu'on ne l'accepterait pas si on savait qui elle est vraiment. Ton histoire avec elle ne peut aller bien loin à cause de ses cacheteries. Vous ne pourrez jamais vivre ensemble. Alors, si elle ne donne plus de ses nouvelles, c'est peut-être une bonne chose. Elle lui dit, tu as sûrement raison, mais malgré tout, c'est une brave fille et qui est victime de ses complexes. J'aimerais tout de même c'est de savoir ce qu'elle est devenue. Il lui est peut-être arrivé quelque chose, un accident ou autre. Gilbert lui dit, allons voir dans son quartier, nous aurons peut-être des renseignements. Ils y vont en fin de journée. Julien a amené une photographie de la jeune fille. Julien lui dit, avant d'entrer dans son allée, comme nous sommes censés ne pas savoir où elle habite, serait peut-être mieux c'est d'aller chez les commerçants. Oui, tu as raison. Ils vont se renseigner à l'épicier du coin. Une grosse femme à blouse blanche regarde bien la photo et dit à Julien, tu cherches cette fille pour la draguer? Non, pas du tout. C'est une amie et nous n'avons pas de nouvelles d'elle depuis déjà pas mal de temps. Elle lui dit en regardant bien la photo. Oui, je la connais, ta copine. Elle vient de temps en temps nous faire des courses. Je crois qu'elle doit vivre seule. Elle n'est pas très bavarde, mais c'est une brave fille. C'est vrai, ça fait un bon bout de temps qu'elle n'est pas venue ici. Je croyais qu'elle était partie. Il tend la photo et lui dit, ne fais pas de soucis, beau gosse. Comme tu es, t'en trouveras bien d'autres. Merci, madame. De rien. Et ils sortent du magasin. Fois dehors, Julien demande à Gilbert, n'avons-nous peut-être pas la peine d'aller demander à un commerçant? Gilbert lui dit, oui, du moment que son épicière ne la voit plus, allons voir dans son allée. Et ils y vont. C'est un vieil immeuble, très vieil immeuble, et la porte n'a pas de fermeture automatique. Ils y rentrent. Vous regardez aux boîtes aux lettres. Voyez que sa boîte aux lettres est bourrée de papier. Gilbert dit, ça fait longtemps qu'elle n'a pas dû relever son courrier. Il n'y a pas de concierge ici? Allons voir dans son palier. Ils vont prendre les escaliers et montent à l'étage. Arrivé à son étage, ils vont vers la porte et sonne. Pas de réponse. Encore une fois, rien. La porte de l'appartement d'en face est ouverte. Apparaît un homme petit, maigre, cheveux blancs, en robe de chambre marron et charentaise. Le petit homme lui leur dit, elle est absente. Je lui demande, vous savez quand est-ce qu'elle reviendra? Non. Quelqu'un vient lui arroser les plantes ou autre? Non, elle n'avait pas de plantes. Gilbert demande, ça fait longtemps qu'elle n'est pas là? Le vieil homme lui dit, ouh, ça doit bien faire au moins un mois qu'elle est partie. Julien demande, elle avait de la famille? Elle recevait personne? Bien monsieur, merci. Et il s'en retourne. Gilbert dit, nous irons voir à son école demain matin. lendemain matin, ils vont à l'école de Françoise. Ils sont entrés dans l'établissement et demandaient à voir la directrice. Elle veut bien les recevoir, mais pas plus de 5 minutes. Elle les reçoit dans son bureau. Bureau, grande pièce, meublée comme un bureau 1930. Elle est directrice d'école libre. Elle est une femme un peu forte, 55 ans, cheveux gris, chemise à fleurs tendance bleue et jupe noire. Ils sont assis devant son bureau. Je vous écoute. Julien lui dit qu'il n'a pas de nouvelles de Françoise Lande. Elle lui dit, j'en ai pas depuis un mois, moi non plus. Vous savez les filles, c'est souvent comme ça. Elles disparaissent sans prévenir et voilà. C'est la jeunesse, c'est très insouciant. Julien lui dit, oui mais pas elle. Elle était sérieuse et nous étions ses seules amies. Même dans son quartier, on ne sait rien. Elle lui dit, si j'ai des nouvelles, je vous le dirai. Donnez-moi vos coordonnées. Julien lui donne sa carte. Elle la met sur son écran et la lui rend. Messieurs. Merci madame. Et il s'en retourne. Décide, c'est d'aller au commissariat. On leur dit qu'il y a énormément de disparitions, mais qu'ils vont enregistrer leurs demandes. Il ne reste plus rien d'autre à faire qu'à attendre. Les jours passent. Une nuit, une voiture s'est arrêtée devant l'immeuble de Françoise. Sort de la voiture un homme habillé en costume noir. Il va vers l'allée de l'immeuble de Françoise. Il ouvre la porte, entre dans l'allée et monte à l'étage. Il ouvre la porte de l'appartement de Françoise. Là, il va dans toutes les pièces regarde de partout. Touche les murs. Fond des meubles. Défait tout. Regarde de partout. Il trouve. Dans une armoire, un curseur rouge l'ouvre, le prend et sort de l'appartement. Et de l'aller. Va vers la voiture. Il entre dans la voiture. Le curseur à la femme en noir qui était dans le siège arrière. Elle l'ouvre et dit: c'est bien ça, merci. Mais il met la voiture en marche. A disparu dans la nuit. Les jours passent. On propose de plus en plus d'entreprises à Maurice, des entreprises de toutes sortes. Ses directions, ses conseils d'administration, le gouvernement le pousse même à prendre ou reprendre ses entreprises. Et la plupart du temps, il refuse. Mon entreprise est une entreprise du bâtiment et rien d'autre. On lui dit: mais vous pouvez élargir votre champ d'action. C'est le moment d'acheter. Vous avez pour une bouchée de pain. Et comme vous voulez, puisque vous êtes le seul à pouvoir acheter des entreprises. Il n'y a que vous qui faites des bénéfices en Europe. Il faut en profiter. Un jour, il reçoit à son bureau un homme grand, mince, dans les 40 ans, cheveux châtains, yeux bleus, sympathique, habillé d'un costume gris. Tentez à me parler, monsieur Chambert. Je vous écoute. L'homme lui dit : Eh bien voilà, monsieur, je veux vous proposer une chose. Je suis représentant de l'école scientifique américaine, la Jeremy Rifkin, école humanitaire de Floride, universitaire. Notre école forme des chercheurs de demain dans le domaine de l'informatique, la biotech, le nucléaire, les sciences climatiques, etc., etc. Nos élèves sont, avant d'être acceptés dans notre école, sélectionnés et déjà d'un très haut niveau et sortent de notre école avec de très grandes connaissances. Les entreprises qui les prennent seront très satisfaites d'eux. Mon rôle à moi, c'est de leur trouver du travail dès la sortie de l'école. Vous proposer l'embauche de mes élèves. Maurice lui dit : Je vous remercie, mais je ne m'occupe que du bâtiment et moi, non, la recherche. L'homme lui dit : La science, c'est l'avenir, c'est le levier de tout et vous pouvez ne pas vous priver de ces nouvelles technologies qui vont envahir le monde, le changer, envahir le monde du travail. Et puis je vous fais une offre, vous aurez des chercheurs à un prix très raisonnable. Non, moi c'est le bâtiment. Oui, mais le bâtiment va changer. Le ciment ne va pas se faire de la même façon. Il se fera avec des bactéries. Et il y aura de nouveaux produits et de nouvelles techniques. Non, ça ne m'intéresse pas. L'homme lui dit : Vous ne pouvez pas refuser. Pensez à l'avenir de votre fils. Lui va être obligé de s'intéresser à toutes ces nouvelles technologies. Plus tôt votre entreprise s'en intéressera, mieux cela vaudra. Parce que vos concurrents vont le faire et vous serez dépassés. Vous devez investir sur la recherche pour faire avancer votre entreprise. Pour pouvoir aller de l'avant, pour divertir votre production, faire du média, de la science, en plus du bâtiment. Parce qu'il ne faut pas faire que du bâtiment. Si vous faites que du bâtiment, vous allez couler. Cela ne suffit pas aujourd'hui. Il faut se diversifier. Je vais refaire ma demande. Nous vous proposons des chercheurs scientifiques sortis de notre école qui est la meilleure parce que nous apprenons à nos élèves les techniques de pointe. Ces chercheurs, vous les paierez dans des conditions de prix très abordable. Le père lui dit : Non, merci. L'homme soupire et lui dit : Cela se fera malgré vous. Votre fils sera obligé, c'est de s'occuper de tout ça. Nous ferons mal à faire malgré tout. On ne peut pas arrêter le progrès. Le père lui dit, disons que je suis d'une autre époque. L'homme se lève. Bon, au revoir monsieur. Et il quitte le bureau. Maurice pense qu'il a bien fait de refuser. Plus tard, le téléphone sonne dans le bureau de Maurice. Pareil.
Allô, oui?
Je suis Judith Claire, monsieur.
Bonjour, Judith. J'ai quelque chose à me dire.
Oui, monsieur. On me dit que vous avez refusé l'offre de l'école scientifique emploi jeune.
Oui, Judith, j'ai pas besoin de ces personnes.
Elle lui dit, c'est une grande erreur, monsieur. Il faut penser à votre avenir et à celle de votre fils. De toute façon, cela se fera malgré nous. On ne peut pas arrêter le progrès, monsieur.
J'ai peut-être fait une erreur. Faites comme vous l'entendez. Vous êtes la directrice des relations humaines.
Elle lui dit, bien. J'embaucherai des jeunes gens et des jeunes filles, monsieur.
Bien. Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Elle téléphone pour dire que tout est arrangé. Elle embauche que des jeunes gens et jeunes filles qui sortent de cette école, qui est en réalité une filière des sept soleils. Ce sont des hommes, des femmes, entre 22 et 25 ans, grands, minces, blonds, le visage très pâle. Ils ont un côté très sec et fixe, ne pensent qu'au travail, un côté rigide. Petit à petit, ils envahissent la société du père. Ils prennent les emplois des ingénieurs, des cadres, techniciens. Les autres cadres et la haute direction est prise déjà par d'autres hommes qui sont moins techniques mais plus membres des sept soleils. Eux qui se sont emparés de la haute direction, tandis que ceux des écoles se sont emparés de la technique de l'entreprise.
ce qui fait qu'en faisant embaucher une personne qui est devenue, en grimpant les échelons chef directrice des relations humaines, elle a fait changer et mis à des postes clés des cadres et de la direction, des gens à elle, des gens à eux. Puis, elle a embauché le personnel technique et administratif. Ce qui fait que la société, le groupe, a été pris de l'intérieur sans que personne ne s'en aperçoive, et tout en restant extérieurement le même. C'est comme si une bactérie ou un microbe était entré dans le corps d'un homme et à l'intérieur de ce corps, elle ou il l'aurait squatté et emparé. Le groupe Franc-Blanc reste le groupe Franc-Blanc, mais il est en réalité devenu le siège des sept soleils qui déjà 20 ans plus tôt avaient mis l'ADN de leur maître, comme le coucou dépose les œufs pour faire nourrir et élever ses enfants. Donc, il y a de plus en plus de nouveaux employés dans le siège. Les jours passent. Organise, comme toutes les années, pour le personnel de l'entreprise, une grande fête. Et oui, il faut montrer qu'on en est une grande famille, que la direction se sent proche de ses employés. Elle organise cette fête dans le parc du château en Bourgogne. Il y a de la place, et puis il vaut mieux que les gens s'enlisent dehors que dans une maison. Des quarts entiers emmèneront les gens. Tout le monde partira en quart pour faire plus près du peuple, c'est mieux. Chaque quart aura un pourcentage de cadres et d'employés par rapport aux ouvriers. Ils ont déjà reçu l'ordre de se mélanger, de ne pas rester entre eux. Ce qui fait que les ouvriers sont gênés d'être entourés de cadres. Et les cadres s'ennuient et sont vexés d'être entourés de gens du peuple. Cela fait un froid et personne n'est satisfait. On et parle pour ne rien dire. Il y a un malaise dans le car tout le long du trajet. C'est les relations humaines qui ont donné l'ordre de faire comme ça. Au château, on fermera les issues à double tour. Mis des WC et des toilettes extérieures dans des cabanes préfabriquées et l'on mangera sous des toiles de tente. Il y aura un orchestre. Bien entendu, la mère a donné l'ordre à Gilbert d'y être présent. Pendant le dîner,
il faut absolument que tu sois mon chéri.
Il lui dit:
« Non, mère, j'ai affaire. » Elle lui dit, « Tu es le fils du président. Tu dois y être. C'est ce que tu as à faire le plus important. »
Il lui dit, « Je ne fais pas partie de la société. Je ne sais pas pourquoi je devrais y être. »
Elle lui dit, « Tu risques de vexer le peuple, le personnel. Tu es un peu comme le prince héritier. Regarde le prince d'Angleterre. Lui aussi a des obligations de ce genre. Tu es comme lui. »
Gilbert soupire et lui dit, « Bien, j'y serai. »
Elle lui dit, « Bien, tu prendras le car 525, place 24, à côté de M. Martin, maçon de son état. »
Gilbert est furieux. « J'aurais mieux aimé, c'est prendre ma voiture. »
« Non, tout le monde doit être à la même enseigne. C'est la fête de la famille. Nous faisons tous partie d'une grande famille. »
Deux jours plus tard, il est parti à l'aube. Il a pris le car qui était devant le siège. Il y a 50 cars pour le siège et le premier site. Et d'autres cars pour les environs de Paris et les lieux de travail iront chercher le personnel. Bien entendu, c'est jour de congé. Ce n'est pas obligatoire d'y aller, mais ce n'est pas bien vu de ne pas y aller. Gilbert, durant tout le trajet, ne dit rien. Il boude. L'homme qui est à côté de lui ne parle pas. Lui aussi s'ennuie. On entend des rires, quelques cris de joie. Certains disent des blagues. enfin, on arrive. Après des heures et des heures de trajet. Interminable. Un défilé de cars a lieu sur le lieu de résidence dans un champ. Ils vont se garer. Il est l'heure des repas. Descend du car et on se dirige vers les tentes où se trouve un repas buffet. Le voyage de Gilbert s'est éloigné. Il se trouve seul, ou plutôt au milieu d'inconnus. Cela fait quelque temps qu'il n'était pas venu dans la société de son père. Il trouve les gens changés. Il ne reconnaît personne, à part Judith, la lapin que l'on garde parce que Judith trouve qu'elle lui porte bonheur. La lapin qui a aujourd'hui une robe verte. Il y a aussi M. Mercier Charles, homme de confiance de son père, 35 ans, grand, mince, blond, très sympathique. À part eux, Gilbert ne reconnaît personne. Il trouve le personnel bizarre. Il semble avoir l'air d'être tous pareils, faits de la même façon, blond, mince, sec, froid. Il se dit tout le monde se ressemble, bizarre. Il prend une assiette des différents plats, s'assoit dans un coin de table et commence à manger. Il y a beaucoup de bruit. De bruit de voix. Est assis à côté de lui un jeune homme d'un 22 ans, blond, mince et grand, costume gris, lui aussi ressemble aux autres. Il dit à Gilbert, « Bonjour, je m'appelle Florent Nessa. Moi Gilbert, je vous ai reconnu. J'ai vu votre photo dans Match. Je suis employé dans l'entreprise de votre père. Je suis au département international du Sud-Ouest. Projet, mise en place, de chantier, personnel, etc. etc. » Gilbert lui dit, « Ah oui, très bien. » Florent lui dit, « Cela ne semble pas vous intéresser. » « Non, pas tellement. Je m'occupe que très peu des affaires de mon père. » Et qu'est-ce qui vous intéresse ? Rature. Je veux être écrivain. C'est bien ça. Moi aussi j'aime bien lire. On pourrait peut-être se discuter littérature. Un de ces jours, Gilbert lui dit. Je sais. Je ne sais pas. Moi aussi. On peut trouver un moment pour discuter, non ? De temps en temps. Je vous trouve très sympathique. Gilbert lui dit, nous verrons, parce que moi je suis très pris. Vous savez, chez moi, j'ai de très beaux livres, mais rares, de première édition. Gilbert lui dit, ah, très intéressant. Je pourrais vous les montrer. Nous verrons. Qu'est-ce que vous connaissez comme auteur ?
De qui ? nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.